Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une femme et journaliste américaine, Nora Vincent, ou Vincent en anglais, qui décide d'entreprendre une expérience aussi atypique qu'intéressante. Vivre 18 mois dans la peau d'un homme. Cette expérience a fait l'objet d'un livre, Self-Made Man, publié en 2006. Une expérience sociale qui a beaucoup été relatée dans les milieux red pill masculinistes, MGTOW, et aussi par les conservateurs aux États-Unis, parce qu'elle soulève une vérité qui dérange la gauche politique progressiste. Cette gauche qui a voulu faire croire pendant des années que les hommes en général, et les hommes blancs hétéros en particulier, avaient la vie facile. Ce qu'ils appellent l'homme blanc hétéro dominant a, selon eux, une vie plus facile, ou la vie facile contrairement aux femmes et autres minorités qui vivent une oppression et une souffrance permanente. Et ce qui rend la démarche de cette journaliste d'immersion intéressante est qu'elle tente de confronter ce dogme à la réalité en disant « je vais essayer de vivre cette vie de l'homme blanc hétéro classe moyenne dit dominant et voir si cette expérience conforte ce qu'avancent les progressistes, féministes et woke en tout genre. » Et voilà, pour comprendre l'idée centrale de cette démarche et de cette expérience, prendre un concept dogmatique de la gauche progressiste, à savoir l'homme, le fort, l'oppresseur, et la femme, la faible, la victime qui souffre, et confronter ça à la réalité par l'expérimentation. Et avant de continuer, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour dire que les rapports hommes-femmes ne se raisonnent pas et ne se sont jamais raisonnés par le passé en termes d'oppresseurs-oppressés. C'est une notion assez nouvelle qu'ont introduit les féministes. Et c'est pour ça que je considère que le dogme féministe est aussi dangereux que le dogme religieux. Pourquoi ? Parce qu'il a apporté au rapport homme-femme, ou il a plutôt imposé au rapport homme-femme, une notion dualiste qui est une notion religieuse, alors que les rapports homme-femme, à la base, se raisonnent plus en termes de complémentarité entre les deux sexes. Et cette complémentarité a évolué au travers des âges, j'en parlais dans mon livre Caractère, dans le sens où, au paléolithique, donc la période avant le néolithique commence il y a environ 10 000 ans, le paléolithique c'est juste avant, et à cette époque, les chasseurs-cueilleurs était plutôt une société égalitaire, dans le sens où les femmes s'occupaient de la cueillette, les hommes s'occupaient de la chasse, les deux vivaient à l'extérieur, et même si ils apportaient une nourriture différente, les hommes apportaient de la viande, de la protéine, et les femmes apportaient des baies, des racines, des végétaux d'une façon générale, les deux apportaient de la nourriture. Et à partir du néolithique, avec la sédentarisation, avec l'agriculture, on commence à voir naître ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, c'est-à-dire une société dominée par les hommes. Pourquoi ? Parce que l'agriculture et la sédentarisation a fait que l'extérieur est devenu le domaine des hommes. C'est là où on a vu apparaître cette différenciation des tâches, et l'intérieur est devenu le domaine de la femme. L'homme travaille dans les champs, il laboure, il cultive, il fait de l'élevage aussi. Et la femme est devenue la maîtresse de maison et elle a commencé à s'occuper de l'intérieur et des enfants. Et c'est un schéma qui a commencé il y a 10 000 ans, qui a existé jusque dans les années 60, hein, pour vous dire à quel point la période patriarcale a été longue. Et aujourd'hui, on assiste à un retour au paléolithique dans les rapports hommes-femmes, d'une façon générale. C'est-à-dire que les femmes ont commencé à travailler comme elles faisaient de la cueillette. Elles ont aussi commencé à contribuer à l'apport de la ressource et de la calorie. Et beaucoup disent que, finalement, la modernité n'est pas si moderne que ça, c'est une forme de retour au paléolithique. Mais quelle que soit l'époque, vous constaterez qu'on n'est jamais dans une dualité, on n'est jamais dans le bien et le mal, on n'est jamais dans les méchants et les gentils. Que ce soit les chasseurs-cueilleurs ou, plus tard, les sociétés sédentaires, on est toujours dans une forme de complémentarité. Cette complémentarité change et évolue, elle passe de la complémentarité de celui qui apporte de la protéine, de la viande, et celui qui apporte des végétaux et des baies et des racines, à une complémentarité différente entre intérieur et extérieur, celui qui travaille dans le champ, celui qui fait de l'élevage, et celle qui travaille en intérieur, celle qui s'occupe des enfants. Et tout ça a très bien fonctionné pendant des siècles, pendant des milliers d'années. Et le drame du féminisme, c'est que ça a tenté d'apporter un dogme qui est similaire au dogme religieux, parce que la dualité, le bien, le mal, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça n'a pas toujours existé. On s'y est un peu habitué, mais à la base, au point de vue religieux, au point de vue métaphysique, c'est une invention des zoroastriens. Le dieu unique, les gentils, les méchants, les forces du bien, les forces du mal, tout ça, avant même les Hébreux, c'est les zoroastriens qui développent tout ça. Et la religion a été une forme de simplification d'un monde extrêmement complexe, comme le féminisme est une simplification d'un monde extrêmement complexe. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que le passage de la civilisation grecque au monothéisme religieux, au monothéisme abrahamique notamment, est une dégradation, est une perte d'information. Parce que la civilisation grecque était beaucoup plus riche dans son rapport entre les dieux et les hommes. Et on peut transposer ça au rapport homme-femme parce qu'on réalise que les Grecs avaient déjà compris cette complexité entre les humains, cette complexité de la sexualité elle-même, des choses qu'on a réinventées avec, ou qu'on a plutôt redécouvert avec la psychanalyse moderne. Le complexe d'Œdipe, le complexe d'Électre qui est son pendant féminin, tout ça c'est de la mythologie grecque qu'on a simplement redécouvert avec la psychanalyse ou ce qu'on a appelé la psychanalyse moderne. Mais les Grecs savaient déjà tout ça. Je fais ici une longue digression, mais à mon sens, c'est quelque chose d'important à comprendre. On décrit souvent le féminisme comme une modernité, comme quelque chose de nouveau qui va apporter des choses aux femmes et à la féminité, mais je considère que c'est une régression, comme les religions monothéistes ont été une régression. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends parler de civilisation judéo-chrétienne. Notre civilisation est grecque, elle n'a rien de judéo-chrétien. L'Union européenne est une construction grecque. Internet, le forum, est une construction grecque. Lorsque vous regardez Twitter, cet endroit bordélique où tout le monde peut aller déverser sa diarrhée. C'est bordélique Twitter, mais c'est nécessaire. Et c'est quoi finalement Twitter? C'est un forum, c'est un endroit où tous les humains vont parler et ils peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête sans qu'on essaye de les arrêter, de les empêcher de parler, de les emmerder. Et ça, c'est une invention grecque, ce n'est pas une invention judéo-chrétienne. Il n'y a pas de liberté dans le judéo-christianisme. Tu critiques Dieu, on te brûle, on te décapite. Il n'y a pas de forum dans le judéo-christianisme, cette idée où tu débarques dans un square, dans une place, et t'es là en train de parler, tu racontes ce que tu veux, puis t'as un philosophe qui arrive avec ses péripatéticiennes. Rien à voir avec les prostituées, hein. Les péripatéticiennes, c'est celles qui marchent en réfléchissant. Certains pensaient que la philosophie ne pouvait se pratiquer qu'en marchant. Et c'est ce qu'a repris Nietzsche plus tard en disant que les seules idées valables, c'est les idées qu'on a en marchant. Et donc chez les Grecs, tu commences à raconter ta diarrhée sur un square, sur un forum, et personne ne vient te faire chier, en fait. Les gens viennent avec toi, ils discutent et ils philosophent. Ça n'existe pas dans la société judéo-chrétienne. Il y a le bien, le mal, ou t'es avec les forces du bien, ou t'es avec les forces du mal. Cette idée d'ouverture et de dialogue et de discussion, c'est une idée grecque. L'Union européenne est une construction grecque, ce n'est pas une construction judéo-chrétienne. D'ailleurs, elle est tellement grecque qu'elle n'a pas d'armée. L'Empire romain, plus tard, a apporté cette notion en y ajoutant l'armée. Les Grecs, c'était « on discute, on rigole » en philosophe. Les Romains, c'était « on discute, on rigole, mais tu fermes quand même ta gueule parce qu'on est la plus grande armée du monde ». Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la Grèce antique. C'est un endroit de liberté, mais qui n'a pas d'armée, qui n'a pas vraiment de pouvoir. Et Rome, ben, c'est les États-Unis. C'est la liberté, l'ouverture, le forum, Internet, la technologie, mais aussi le côté « fermez tous vos gueules parce qu'on est les plus forts de la place ». Voilà donc pour cette petite parenthèse un peu longue mais qui rejoint tout de même le sujet. Cette journaliste, Nora Vincent, va justement confronter cette idée véhiculée par les progressistes, véhiculée par les féministes, au réel. Elle a écouté pendant tellement longtemps les hommes c'est les méchants, les hommes c'est les oppresseurs, les femmes c'est les gentils et les victimes, qu'elle s'est dit on va voir ce qu'il en est, on va voir sur le terrain, je vais devenir un homme, je vais me déguiser en homme et on va voir ce que ça donne. Et Nora Vincent dit s'être déguisée en homme pour les fréquenter, entrer dans leur cercle, comprendre comment l'amitié fonctionne entre les hommes, comprendre la camaraderie, la fraternité, qui sont au passage des notions étranges à la femme. On a essayé d'inventer un pendant à la fraternité qui s'appelle la sororité, mais ça n'a jamais pris. qui utilisent aujourd'hui le mot sororité. Et c'est assez intéressant parce qu'en général, les mots qui continuent à exister, c'est les mots dont la fonction existe. Pourquoi ? Parce que ben, on les prononce, on les utilise, parce qu'ils ont une fonction, une application réelle. Le mot sororité n'est quasiment jamais utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de fonction dans la vie réelle. Le rapport entre les femmes n'est pas un rapport de sororité, c'est un rapport plutôt de jalousie, de compétition, de qui est la plus belle, il n'y a pas de sororité entre les femmes. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, plusieurs années, peut-être 3 ans, je vous la mettrai en description de ce podcast, où je parlais de cette expérience d'une Britannique qui avait créé une entreprise où elle ne faisait travailler que les femmes, justement avec cette idée de sororité, de féminisme, de « on reste entre femmes », etc. Et ça s'est fini en catastrophe. Ça s'est fini en bagarre généralisée dans les chiottes, avec des coups de sac dans la gueule, et elle a compris en fait que l'homme était un élément civilisateur. Dès que tu mets un homme dans une entreprise où il y a des femmes, en général, l'ordre commence à s'instaurer dans le poulailler. Pourquoi ? Parce que la présence de cet homme modifie les comportements, les femmes n'osent pas dire les choses qu'elles disent quand elles sont entre elles. Et vous allez me dire, l'opposé est aussi valable. C'est-à-dire que lorsqu'on met une femme dans un milieu exclusivement constitué d'hommes, ça apporte un élément civilisateur. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Moi qui travaille dans le bâtiment, je travaille dans des environnements qui sont exclusivement masculins. Les échafaudeurs avec qui je travaille, ben, c'est que des hommes. Les plombiers, pareil. Les électriciens, pareil. De temps en temps, tu vas voir une secrétaire qui sera une femme. Mais les entreprises constituées exclusivement d'hommes fonctionnent. C'est pas des poulaillers. Pour commencer cette expérience, Nora a d'abord dû entreprendre une modification physique. Si elle veut vivre comme un homme et qu'elle veut se faire passer pour un homme, ben faut qu'elle ressemble un peu à un homme. Et pour ça, elle avait déjà des avantages compétitifs. Elle était plutôt grande, 1m77, 78, qui est grand pour une femme. Physiquement plutôt androgyne, et elle est homosexuelle au passage, et donc son physique a un peu facilité cette entreprise. Si elle était très féminine physiquement, comme le dit Otto Wenninger dans Sexe et caractère, si elle tendait vers le F absolu, vers la féminité absolue, cette transformation aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Si elle faisait 1m60, 1m63, la taille moyenne des femmes en France, par exemple, qu'elle avait des hanches larges, des courbes, une silhouette très féminine, cette expérience aurait été impossible. Là, il se trouve qu'elle est quasiment... Elle est masculine, elle est androgyne. Donc cette modification a été, je ne vais pas dire facile, mais très simplifiée.
This wasn't just a stunt. This was about learning. This is a human project. It was about finding something out about the human creature. And I learned it the best possible way because I went through it.
What Nora went through, or more accurately, what she became in the last 2 years, was a man.
Yeah, a little bit shorter on the top.
Okay.
No, Nora didn't get a sex change operation. She did it the old-fashioned way, with acting and a disguise. At 5'10", 155 pounds, and wearing men's size 11 shoes, Nora was a natural. She says she's still a tomboy, and in fact is a lesbian, living in Midtown Manhattan with her partner Lisa.
I think we can work with this.
Her transformation into the guy she calls Ned begins with a buzz cut, baggy men's clothes, and a too small sports bra to flatten her breasts. She even wore a little padding in a jock strap.
Et pour sa transformation, elle est passée par les étapes suivantes. Elle s'est fait coller des poils artificiels sur le visage pour simuler une barbe ou une pilosité masculine, chose qu'elle a fait disparaître avec le temps. Elle a utilisé ça dans ses premières expériences, mais c'était tellement compliqué à entretenir que ça a fini par disparaître. Mais en tout cas, au début, l'idée était là. Ensuite, elle a dû travailler sur sa voix. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants qu'elle avait du mal à cacher. Les femmes ont une voix nasale, plus nasale que celle des hommes. Donc elle a pris des cours de diction avec un professeur de voix, en anglais voice teacher. Puis ensuite, pendant des mois, elle a aussi travaillé sur sa respiration, sur sa cage thoracique. Vous savez que la voix, c'est un mécanisme assez complexe. Hein. C'est pas uniquement les cordes vocales, c'est aussi beaucoup les poumons, c'est aussi beaucoup la cage thoracique qui fonctionne comme une caisse de résonance. C'est la respiration, la qualité de la respiration. Si on a le nez bouché, ben, on va va avoir tendance à avoir une voix un peu nasale. Donc elle a travaillé sur tous ces paramètres pour essayer de rendre sa voix la plus masculine possible.
Women have much stronger nasal resonance as a
rule. And then there's the theatrical component.
Ah, so just easy Tarzan out on your chest a little. Ah, good.
Juilliard voice teacher Kate Murray coached Nora for months on a program of movement, breathing, and speaking.
I want you to be the best man you can be.
All to incorporate some of the subtle and not so subtle characteristics of being a guy.
Notice what men do if they need to suddenly grab a taxi. Hey! They just do that, whereas women will ask for a taxi instead of demand one.
Elle a aussi travaillé sur les mimiques de son visage, les mouvements de son visage. Elle a aussi changé sa façon de parler, elle a modifié sa façon de parler de manière à la rendre plus virile. Sa gestuelle aussi, hein, par exemple, la façon qu'a un homme d'appeler un taxi n'est pas la même que pour une femme. Hein. Les hommes font preuve de plus d'assertion, de virilité. Un homme qui arrête un taxi dans sa gestuelle demande au taxi de s'arrêter, il ordonne au taxi de s'arrêter, alors qu'une femme dans sa gestuelle c'est plutôt « est-ce que tu veux bien t'arrêter ? Est-ce que tu veux bien être assez gentil pour t'arrêter ?» D'une manière générale, les femmes sont moins autoritaires, moins incisives et plus agréables que les hommes. Elles vont avoir tendance à être plus, en anglais c'est agreeable, je ne sais pas si on peut traduire en français agréable, ça n'a pas vraiment le même sens. Agreeable, en anglais, ça veut plutôt dire quelqu'un d'accommodant. Voilà. Les femmes n'aiment pas le conflit, elles sont souvent accommodantes. Elles vont dire oui ou elles vont éviter de s'imposer juste pour éviter les problèmes. Et pour finir, un travail plus général sur la posture, la démarche, les vêtements aussi. Il fallait choisir des costumes, par exemple, assez amples pour cacher ses formes. Elle était androgyne, comme on l'a dit, mais elle avait quand même un minimum de formes féminines. Les hanches, par exemple, c'est quelque chose... Même une femme androgyne aura un ratio hanche-taille qui reste féminin. Et enfin, des lunettes pour encore mieux cacher son visage et ses yeux. Et après cette longue transformation physique, Nora Vincent devient Ned Vincent et commence à faire plusieurs expériences au cours de ces 18 mois. Et vous aurez compris que ce n'est pas 18 mois continus où elle a constamment vécu comme un homme. Elle avait une compagne, donc comme je l'ai dit, elle était homosexuelle, donc elle avait une amie avec laquelle elle vivait. Et pendant ces 18 mois, elle a fait des expériences avec intermittence. Sa toute première expérience était de rejoindre un club de bowling fréquenté par des travailleurs de la classe moyenne américaine. Sa première surprise était que malgré sa nullité, elle ne jouait pas au bowling, elle n'était pas très douée, mais personne au club ne l'a moquée.
Ned's first act as a newly minted male was to join that quintessential bastion of camaraderie, a men's bowling team. The only problem was, she's a terrible bowler.
I probably bowled before this 3 times in my life, and that was, you know, in high school when you do it with both hands, you know. So it was just insane for me to walk into this place without any.
And why didn't they just run you out of town when they saw how bad you were?
It's an amazing thing because I think, I mean, that shows you the generosity that they had.
It was the first of Nora's many surprises. She thought these guys from a working-class Pennsylvania neighborhood would mock Ned's bowling and reject him as a guy. But from their first meeting, they accepted Ned.
Et elle dit même que ces hommes, pour la plupart ouvriers ou travailleurs de la classe moyenne, ont fait preuve d'une patience et d'une tolérance incroyable à son égard. Et pour elle, c'était un premier mythe qui s'effondre, celui d'un environnement masculin très viril, très macho, entre collègues, avec des moqueries, des railleries. Et ce qu'elle a trouvé, en réalité, c'est plutôt une ambiance bon enfant, sympathique, avec des hommes qui jouaient au bowling après le travail pour se détendre. Pourtant, avec sa dégaine, même si la transformation était plutôt bien réussie, beaucoup avaient des doutes. Beaucoup pensaient qu'elle était homosexuelle, mais pas dans le sens où elle l'était vraiment, plutôt un homme homosexuel, un peu efféminé, qui manquait un peu de virilité, qui avait une voix aiguë, etc. Malgré toutes les possibilités de la moquer ou de l'écarter, ils l'ont plutôt bien acceptée, plutôt tolérée, aidée, ils ont sympathisé avec elle, et elle a continué à les revoir, même sa transformation finie. Elle est retournée en tant que femme dans ce club de bowling, et elle a gardé, conservé des amitiés qui ont perduré. Et une chose intéressante qu'elle nous raconte, c'est que elle nous dit que l'expérience la plus intéressante et la plus surprenante pour une femme, c'est le serrage de main.
The handshake was unbelievable. It blew me away the first time I shook hands with a guy, a strange guy. And I was amazed because you think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean. Complete opposite.
La chaleur et le contact humain qui se dégagent du serrage de main par opposition à la bise féminine qui peut paraître chaleureuse, mais qui est très artificielle. Il n'y a rien de plus artificiel que la bise. Il y a une proximité physique, mais la bise est assez hypocrite, en fait. Alors que le serrage de main, tu communiques quelque chose par la pression, par la virilité que tu transmets. La distance est plus grande dans le serrage de main que dans la bise. Par contre, l'information communiquée et le contact humain est beaucoup plus fort. À l'époque où je travaillais en France, en Angleterre, on ne le fait pas. Il n'y a pas la bise en Angleterre. Tu t'approches pas des gens en général. Mais en France, on fait beaucoup la bise. Et quand j'arrivais au travail, en agence d'architecture, je faisais la bise, quoi. Tu tapes la bise à toutes les femmes avec lesquelles tu travailles. Mais il n'y a rien de plus froid que la bise, en fait. Pour moi, taper la bise à une femme, c'est comme taper la bise à un mur. C'est stérile. Tu le fais presque sans trop te poser la question. Tout le monde le fait, donc tu le fais. Et moi, ça me faisait profondément chier parce que j'ai pas que ça à foutre, quoi. T'arrives, t'as envie de te poser sur ton ordi, commencer à travailler, taper la bise à la moitié du plateau où je travaillais, ça m'intéressait pas trop. Et en Angleterre, ça a été un soulagement d'arriver dans un environnement où personne ne se fait la bise. T'arrives, même le serrage de main, en fait. On serre des mains quand on finit une réunion ou lorsqu'on signe un contrat, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de serrage de main comme ça, intempestif, partout, tout le temps. Ou tu le fais avec les gens que tu connais, mais il n'y a pas d'obligation ou de pression pour le faire, comme c'est le cas en France et peut-être dans les pays latins. Autre chose qu'elle découvre pendant cette expérience, c'est qu'elle pensait que les hommes ne parlaient des femmes qu'en termes de cul et de sexe. Et elle réalise que non. Elle qui a infiltré ces milieux masculins, elle réalise que les hommes ne parlent pas de sexe entre eux et qu'ils sont beaucoup moins vulgaires que les femmes en réalité. Ça, c'est un truc assez intéressant parce qu'on accuse les hommes d'être grossiers, de parler de sexe, d'avoir une obsession pour les femmes. Mais la petite subtilité, c'est que oui, on a une obsession pour le sexe et on pense beaucoup au sexe en tant qu'homme. Il est admis scientifiquement que le cerveau masculin pense beaucoup plus au sexe que le cerveau féminin. Et ça, Loane Brizendine en parle très bien dans Les secrets du cerveau féminin, de manière scientifique. Hein. Loane Brizendine, c'est pas des conneries de psychologie de comptoir. Hein. C'est une neuroscientifique qui sait très bien de quoi elle parle et tout ce qu'elle dit est sourcé. Donc, lorsqu'elle dit que les hommes pense beaucoup plus au sexe pendant une journée que les femmes, ça s'est fait ou ça a été justifié ou appuyé par des scans de cerveau, par des expériences concrètes d'IRM, etc. Mais par contre, la petite subtilité à comprendre, c'est qu'on n'est jamais vulgaire. Pour être concret, les hommes entre eux ne parlent pas ou ne décrivent jamais le vagin de leur partenaire. On ne parle pas de ça. On ne dit jamais, par exemple, tu rentres avec une femme, voilà, tu sors avec des potes et ils te voient rentrer avec une gonzesse que tu as alpaguée en boîte de nuit. Le lendemain, ils vont juste te demander « est-ce que tu l'as pécho ?» Sans plus. Ils vont jamais te demander « est-ce que c'était bien ?» On ne rentre pas dans ce type de détails entre hommes. Alors que les femmes parlent de ce genre de choses. Elles parlent de la taille du pénis de leur partenaire. Lorsqu'elles ont un plan cul, elles vont dire à leur copine « c'est un bon plan, il est mauvais, c'est un éjaculateur précoce, il a tenu 15 secondes ». Elles parlent de ces détails. Les femmes, en réalité, sont bien plus crues et bien plus graphiques. En anglais, graphique, ça veut dire figuratif. Ça veut dire que on montre des choses. Quand vous voyez « graphic content » en anglais, c'est que c'est violent, c'est qu'il y a du sang, c'est qu'il y a des choses que on n'a pas envie de voir ou on veut être prévenu avant de les voir. Et les femmes sont beaucoup plus graphiques, elles décrivent les choses. Je te garantis aussi que 100% des femmes ont révélé à leur copine que leur compagnon était éjaculateur précoce ou impuissant, ou au contraire, qu'il était très bon et qu'il durait pendant des vingtaines, trentaines de minutes avant d'éjaculer, ce genre de choses. Elles sont beaucoup plus descriptives que nous. Et Nora Vincent ne savait pas. Je le sais parce que ça fait suffisamment longtemps que je m'intéresse à ce genre de sujet, mais pour elle, c'est une découverte. Elle pensait vraiment que les hommes, entre eux, étaient des gros dégueulasses qui passaient leur temps à parler de la couleur du vagin de leur copine, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, et elle a réalisé que non. Si vous êtes une femme et que vous ne le savez pas, entre hommes, on ne parle jamais de ce genre de choses. J'ai jamais dit à un ami que ma copine du moment était un bon ou un mauvais coup, ou qu'elle avait un vagin de telle ou telle taille, que c'était plus ou moins serré, plus ou moins relâché. On rentre pas dans ce genre de détails. Au final, on est assez pudique. Et finalement, cette accusation féminine, ou peut-être féministe, pour ne pas mettre toutes les femmes dans le même panier, qui tend à dire « les hommes sont des gros dégueulasses », est une accusation qu'on peut inverser. Les femmes sont beaucoup plus, dans leur description, dégueulasses et figuratives que nous. Et pour ceux qui rêvent d'être une petite souris pour savoir ce que disent les femmes entre elles ou pour écouter ce que disent les femmes, je vous le dis tout de suite, vous n'avez rien perdu. Voilà, ça parle de cul, de taille de bite, de combien de temps il a mis pour éjaculer. Et si ça parle pas de ça, ça parle de shopping, ça parle de maquillage. Vous n'avez rien perdu. Ça ne sert à rien de vous déguiser en petite souris ou de vous transformer en petite souris pour écouter. Il n'y a rien à écouter. Voilà, je vous le dis tout de suite. Autre chose que Nora découvre en accompagnant ses nouveaux amis au strip club, en boîte de striptease, elle réalise la différence de sexualité entre les hommes et les femmes. La sexualité chez les hommes est mécanique. L'homme fonctionne comme une pompe. On est visuel, le cerveau comprend, capte l'excitation, il envoie le sang dans la verge, on bande, et ensuite on a besoin d'évacuer cette pression. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être stimulé pendant des heures, on n'a pas besoin d'histoires, de romans à l'eau de rose, on n'a pas besoin de se raconter un film pour pouvoir être excité. Alors que chez les femmes, l'excitation est bien plus cérébrale, et elle expliquait que dans cette boîte de striptease, même elle, qui était pourtant homosexuelle, donc qui ressentait une attirance envers les femmes, n'a rien ressenti parce que la boîte de striptease, c'est grossier. C'est une femme qui vient te voir, qui se frotte contre toi, en espérant que tu vas acheter une danse $30, que tu vas la prendre dans une pièce privée. Ne pas confondre striptease et prostitution, hein, il ne se passe rien dans la pièce. Elle te fait simplement une danse privée qui est un peu plus chaude que celle qu'elle te fait en public dans le club de striptease. Et le jeu, c'est un peu ça, c'est qu'elle vient à ta table, elle te chauffe un peu en espérant que tu vas lui dire « je veux une danse privée » et pour elle, ben, ça lui fera $30 et ça lui permettra de rentabiliser sa soirée. Et le but, bien sûr, c'est de faire un maximum de danses privées, donc un maximum de clients par soir, pour pouvoir vivre et payer son loyer, ses dépenses, tout simplement, surtout aux États-Unis. Donc 20 danses par soir, $30 la danse, ça lui fait $600. Elle va donner une partie, et des fois une partie assez conséquente, hein, des fois la moitié au club de striptease, et elle garde la moitié. Donc finalement, c'est pas si rentable et pas si intéressant que ça. Mais ça permet à de jeunes femmes étudiantes qui ont une plastique correcte de survivre quelques années. J'ai beaucoup de respect pour les stripteaseuses au passage parce que c'est des femmes qui n'ont jamais franchi la ligne rouge, elles sont jamais tombées dans la prostitution. J'avais fréquenté une stripteaseuse à une époque et c'est des femmes en fait qui ont juste compris qu'elles pouvaient gagner de l'argent avec leur corps mais qui n'ont jamais voulu aller trop loin. Et du coup le striptease, oui tu vends un peu ton corps, tu danses, mais tu conserves ta dignité. Voilà, il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas plus que la danse. Et pour Nora, toutes ces stripteaseuses qui venaient la voir en pensant qu'elle était un homme, qui se frottaient à elle pour avoir une danse privée, ça lui faisait rien. Elle comprenait même pas le concept de la boîte de striptease. Parce que elle étant une femme, même si elle est homosexuelle et qu'elle a de l'attirance pour les femmes, son cerveau, c'est toujours un cerveau de femme. Les homosexuels ne sont pas des transsexuels. Il n'y a pas d'hormones qui modifient leur niveau de testostérone. Il n'y a pas de modification hormonale. Donc, la chimie du cerveau même si c'est une femme homosexuelle, sa chimie du cerveau, c'est une chimie féminine qui fonctionne comme fonctionne le cerveau d'une femme. Et le cerveau d'une femme, pour être excité, a besoin d'une histoire. C'est pas juste le cerveau qui envoie du sang dans le clitoris et t'es prêt à baiser, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que les femmes achètent beaucoup de romans à l'eau de rose, par exemple. Les hommes ne consomment pas ce type de roman. Un roman à l'eau de rose, un arlequin pour un homme, c'est débile, ça nous intéresse pas. Alors que les femmes, ben ça peut les faire mouiller. Une histoire, du texte, si c'est bien écrit, s'il y a un peu de fantaisie, ça peut les faire physiquement mouiller. Aucun homme n'éjaculera jamais de sa vie en lisant un arlequin. On ne fonctionne pas comme ça. On a besoin de chair, on a besoin de choses visuelles. Les femmes peuvent, parce que ce qui se passe dans leur cerveau est aussi important et parfois plus important que ce qui se passe au niveau de leur clitoris. Et ce qu'elle a découvert en fréquentant ces hommes, c'est que ben pour les hommes, on n'a pas besoin d'histoire, on n'a pas besoin d'arlequin, on n'a pas besoin de roman à l'eau de rose, on a juste besoin d'une gonzesse qui danse un peu, qui s'agite, qui se frotte les fesses contre nous, et puis voilà, on est heureux, on est au paradis, on est simple en fait, l'homme est simple. Puis après, il rentre à la maison, tu lui fais un steak et des patates et il est content. Il n'y a rien de plus simple qu'un homme. Une femme qui dit « je comprends pas les hommes, j'y arrive pas », je vais te dire tout de suite, hein, t'es débile. Il n'y a rien de plus simple que les hommes. Les femmes sont compliquées, donc quand un homme dit « j'ai du mal à comprendre les femmes », je valide. Dans la tête d'une femme, les femmes elles-mêmes ont du mal à se comprendre, en fonction de leur cycle hormonal, en fonction de la période du mois, en fonction... Même elles le savent, même elles te disent « c'est la période du mois, ne me parle pas ». Ne me parle pas, va faire autre chose, va jouer au ping-pong, ne me parle pas. Donc, quand toi, homme, tu dis « je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce bordel, je veux pas lui parler », c'est normal. Par contre, nous, on est facile. Les femmes qui disent « je ne comprends pas les hommes », vous êtes passé à côté de votre vie. Hein. Un homme, tu lui fais une pipe, un steak, il est au paradis. Votre requête qui consiste à dire « je ne comprends pas les hommes » est irrecevable. Et pour le résumer, ce que découvre Nora Vincent, ben c'est la testostérone. C'est aussi simple que ça.
I really ran smack up against the difference between male and female sexuality is that female sexuality is mental. It's up here. It's such a powerful drive, and I think because we don't have testosterone in our systems, we don't understand how hard it is.
La grande différence, la différence hormonale majeure entre les hommes et les femmes, c'est la testostérone. C'est cette hormone qui nous donne de l'agressivité, qui nous donne envie d'aller vers les femmes, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne envie de nous reproduire. C'est cette hormone qui fait l'homme, en réalité. Et voilà ce qui génère ces comportements masculins que les femmes ne comprennent pas. La femme ne comprend pas le concept du strip club. Que fait un homme ? Pourquoi il va regarder des femmes en train de danser, se frotter, c'est quoi le concept? Elles ont du mal à comprendre ça. Et d'ailleurs, c'est une hormone qui, quand prise à dose élevée, devient dangereuse et devient contre-productive. Un peu de testostérone, c'est bien, c'est ce qui te fait homme, c'est ce qui te donne cette énergie, cette agressivité, cette envie de vivre. Quand t'as pas de testostérone, t'es fatigué, t'as envie de dormir, t'as pas d'énergie. Mais quand t'en as trop, et c'est ce que racontent par exemple tous les bodybuilders qui font des thérapies de stéroïdes, hein, qui est une forme de testostérone synthétique, beaucoup racontent qu'ils perdent la tête. Ils ont trop d'agressivité, ils ont une libido excessive, anormale, qui fait qu'ils ont envie de baiser tout, n'importe quoi et tout le temps, et ça leur fait perdre la tête. Et l'expérience la plus intéressante de Nora Vincent a été la drague de rue. Elle a réalisé le pouvoir phénoménal qu'ont les femmes dans ce domaine. Pour être concret, elle a abordé des femmes dans la rue, dans les bars, dans les restaurants. Elle a essayé de discuter, de tchatcher un peu avec des inconnus. Et elle, qui n'avait jamais réalisé la difficulté que ça représentait pour un homme, elle a compris le rapport de force entre les hommes et les femmes. Et elle a compris que les femmes détenaient l'arme nucléaire. Cette arme nucléaire, c'est le non. Le non qui tombait à peu près dans 99% des cas. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir de l'empathie pour les hommes parce qu'elle réalise toute la difficulté que représente la drague pour un homme. Pourquoi ? Parce que c'est les hommes qui doivent tout faire. Ils font tout. Ils prennent leur courage à deux mains. Ils traversent la pièce. Admettons, on est dans un bar. Il cherche des mots à dire, des punchlines, des pick-up lines. Ils essayent de faire de l'humour, trouver la phrase d'accroche qui va faire rire ou qui va intéresser cette femme. Et elle, en face, elle le regarde et elle lui dit non.
And the thing is, we don't have to do the part where you cross the room and you go up to a stranger and say the first words. And those first words are so hard to say without sounding like a cheese ball or sounding like a jerk or whatever else.
And what do you guys do?
Nora says the brush-off Barbara Jones gave Ned was typical.
She was just sort of emblazoned with hostility. You know, just looked at you and you saw everything cross her face, which was... Oh, God, help me. Not again. I'm trying to have a drink with a friend, and I've got to deal with you.
Barbara was trying to dispose of Ned before her friend returned from the bathroom.
Et en général, c'est pas un non catégorique. Les femmes sont toujours un peu plus subtiles que ça. En général, c'est « j'ai un copain, j'attends ma copine, j'attends mon copain, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. » Elles trouvent des moyens détournés de vous dire non, mais c'est un non tout de même. C'est pas toujours un non, mais dans 99% des cas, c'est un non. Elle réalise aussi autre chose, c'est que dans beaucoup de cas, ce non s'accompagne d'une certaine hostilité, il s'accompagne de mépris, de dédain, de méchanceté parfois. Et à partir de ce moment, toute sa conception des rapports hommes-femmes est chamboulée. Elle découvre ce que peu de femmes connaissent, elle découvre le sentiment du rejet. Les femmes, d'une façon générale, ne savent pas ce que ça veut dire, surtout à l'heure des réseaux sociaux, de Tinder, du dating en ligne. Si t'es un peu jolie, t'as juste à mettre ta photo et t'auras 100, 200 matchs en quelques heures. Plus t'es jolie, plus t'en auras, bien sûr. Et la femme n'a qu'à faire sa sélection parmi toute la liste des prétendants qui se présentent. Donc le rejet, c'est pas quelque chose que les femmes comprennent ou vivent d'une façon générale parce que c'est elles qui rejettent, c'est elles qui sélectionnent. L'homme propose, la femme dispose et elles sont toujours quelque part en position de force. Ce sont elles qui élisent les prétendants. Et c'est ça la réalité des rapports hommes-femmes. C'est la femme qui regarde d'un œil hautain toute la sélection d'hommes qui se présentent à elle et elle a juste à dire « toi, oui, toi, non, toi, non ». Toi, non. Et en général, c'est 99% de non et un oui. Et bien sûr, les réseaux sociaux ont fait exploser le choix qu'ont les femmes. Avant, une femme dans un petit village, elle avait quoi ? 10 prétendants. T'en as 3 qui sont mariés, 3 qui sont trop jeunes, 2 qui sont trop vieux. Il en reste un, quoi. Et en général, elle se marie avec lui, elle fait 3 gamins et elle passe le restant de ses jours avec lui. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, sur Tinder, elle n'en a pas 10. Elle en a 1000. Et parmi les 1000, il y en a au moins 100 qui peuvent faire l'affaire. Et parmi les 100, elle ne sait plus où donner de la tête. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant. Elle qui vivait dans un corps de femme, qui avait un choix relativement facile à faire, hein, qu'elle soit homosexuelle ou pas, ça ne changeait rien. C'est une femme. Elle avait un accès à la sexualité relativement facile. Et elle se retrouve dans un corps d'homme où elle vit le rejet matin et soir. Toutes les gonzesses qu'elle a approchées, c'est « j'ai pas le temps, j'ai un copain, ça m'intéresse pas ». Drague de rue, ça a été pour elle un choc. Parce qu'une femme passe toute sa vie sans ne jamais savoir ce que ça veut dire que d'être rejetée. Ou c'est très rare. J'imagine qu'il y a des femmes qui se sont faites rejeter par un beau gosse qu'elles courtisaient ou dont elles étaient amoureuses en cachette, mais c'est assez anecdotique dans la vie d'une femme. Alors que le rejet dans la vie d'un homme, c'est la généralité. C'est la drague qui fonctionne, qui est anecdotique. Ce qui est rare, c'est quand t'arrives à pécho. Le rejet, c'est la généralité, c'est la normalité. Et quand t'arrives à pécho, c'est l'exception. Pour les femmes, c'est le contraire. Quand t'arrives à pécho, c'est la généralité. Et quand tu te fais rejeter par un homme parce qu'il a un statut élevé, parce qu'il a déjà une copine, parce qu'il a aussi le choix. En général, les femmes s'intéressent toutes aux mêmes hommes. Donc les hommes du haut de la pyramide sont très courtisés et ils n'ont pas le temps pour tout le monde. Hein. T'as beau être l'homme le plus beau gosse de la place, t'as toujours 8 heures dans une journée. Hein, donc tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Mais c'est l'exception chez les femmes. Le rejet, c'est l'exception, alors que le rejet pour les hommes, c'est la normalité. Et là, elle se dit, mais ça doit être vachement dur d'être un homme, en fait. Ça doit être vachement dur de traverser ce monde avec les rapports hommes-femmes tels qu'ils existent. Déployer autant d'énergie pour essayer de séduire, de draguer, se faire autant de fois rejeter et garder le moral, c'est un truc de dingue. Du moins pour une femme, c'est un truc de dingue. Un homme, il se fait rejeter 99 fois sur 100, il continue sa vie normale, il a l'habitude, tu vois. Une femme, elle se fait rejeter deux fois, elle est sous Prozac, elle fait une dépression. C'est pas normal pour elle, la terre s'effondre, le monde s'effondre. Nous, on se fait rejeter 99 fois, on se dit, j'espère que la centième, ça va marcher. Donc pour les femmes qui m'écoutent, un peu de compassion pour les hommes. La vie est dure. Et elle a aussi fait du dating online, elle a testé le dating en ligne, et elle a réalisé une autre chose, un autre mythe que racontent les femmes, un autre mensonge féminin. Elle a réalisé que les femmes détestent les hommes féminins. Elles détestent ça. Les femmes qui veulent dire « on rêve, on espère un homme doux, gentil, attentionné, qui est un peu comme nous ». En fait, si on écoute parler les femmes et les féministes, elles vous disent « l'idéal, c'est un homme avec un cerveau de femme ». Extérieurement qui ressemble à un homme, mais intérieurement qui est doux, fragile, un peu comme une femme. Et Nora Vincent, elle se dit « mais c'est exactement ce que je suis. Je ressemble à un homme, je me suis déguisé du moins pour ressembler à un homme, et j'ai un cerveau de femme, donc je vais pécho un truc de fou, je vais pécho la terre entière ». Et elle a réalisé qu'elle s'est faite rejeter parce qu'elle était trop féminine.
Nora, as Ned, also went on about 30 dates with women, mostly arranging them on the internet.
Did you have any fun?
Rarely.
It was just an ordeal.
Unpleasant. Yeah.
She says the pressure of Ned having to prove himself was grueling. Nora was surprised that many women had no interest in a soft, vulnerable man.
My prejudice was that the ideal man is a woman in a man's body. And I learned, no, that's really not. There are a lot of women out there who really want a manly man.
Les femmes ne veulent pas d'un homme féminin. C'est un mensonge. Les femmes qui disent « je veux de la douceur, je veux de la gentillesse, je veux qu'il me fasse des petits plats, je veux qu'il se comporte comme une gonzesse ». Non, elles ne veulent pas ça, c'est un mensonge. Les femmes demandent l'égalité, mais elles détestent l'égalité. Au sens où elles détestent l'homme qui ne leur donne pas le sentiment de protection. Et pour donner à une femme le sentiment de protection, il faut que tu lui sois supérieur. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment une femme peut se sentir en sécurité à tes côtés? Ben, c'est l'idée que tu es plus fort qu'elle et que potentiellement tu peux la défendre d'agresseurs qui sont plus forts qu'elle. Si elle est plus forte que toi, ça veut dire qu'il n'y a aucun agresseur qu'elle ne peut pas combattre et que toi tu puisses. Et ça, c'est une autre idée qui se fracasse complètement au sol dans cette expérience. L'idée selon laquelle les femmes aiment la douceur, la gentillesse, la vulnérabilité est fausse. Les femmes ne veulent rien de tout ça. Elles veulent des hommes virils, masculins, protecteurs, riches, ou qui réussissent dans la vie, ou qui ont un métier, pas nécessairement riche, mais qui ont quelque chose, une passion, qui savent faire des choses, qui ont une vocation dans la vie, pas un branleur qui joue à la PlayStation toute la journée. Donc les femmes demandent et veulent de la virilité et de la masculinité. Elles ne veulent pas leur équivalent. Et ça, c'est un autre mythe, un autre mensonge qu'ont véhiculé les féministes. Et c'est dans ce sens qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles racontent des foutaises que la vie réelle et que l'expérience réelle ne vérifient pas. Et petite parenthèse qui conforte encore cette idée selon laquelle les femmes sont très cérébrales, pour revenir à la question des arlequins, elle nous dit que certaines femmes avec qui ça a marché, parce qu'elle a eu quand même quelques expériences qui ont fonctionné, ont continué à vouloir la fréquenter lorsqu'elle leur a révélé qu'elle était une femme.
Ultimately, Ned told most of his dates that he was Nora. Many of the women reacted angrily, but usually just for a little while. Some women wanted to continue the relationship.
They remained interested in pursuing something further, you know, so whereas...
Sexually?
Yeah, and that was heterosexual women who, that's what I'm saying. It's all up here, because they said, well, we connected, and, you know, there's something I really like you, and I don't care
How many guys would do that? That's the difference between male and female sexuality right there.
Et là, ça vous explique à quel point la sexualité est très cérébrale chez les femmes. Un homme n'aurait jamais fait ça. Un trans thaïlandais, par exemple, qui va être très féminin, qui va ressembler à une femme, qui va peut-être être même plus attirant que certaines femmes, qui va te révéler qu'il est transsexuel et qu'il a un truc entre les jambes, hein, qu'il a un pénis, pour parler clairement, bah, en général, les hommes vont se barrer. Du moins, ceux qui ne sont pas intéressés par ça. Si tu pensais vraiment que c'était une femme et qu'elle te révèle en réalité que c'est un trans thaïlandais et qu'il a une bite, en général, les hommes qui ne veulent pas de ça se barrent. D'abord, ils sont choqués parce que des fois, physiquement, tu te dis comment ils font, comment des hommes font pour arriver à ce niveau de transformation. Et deuxième étape, en général, ils arrêtent la relation. Ils vont pas continuer à fréquenter cette personne. Mais Nora Vincent nous explique que pour les femmes, ça ne semblait pas poser problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu ou qu'elle a eu une connexion avec ces femmes et ensuite elle leur a révélé « Bon, je suis désolé, voilà, je me suis déguisé, je suis une femme en réalité et ça, c'est juste une expérience sociale que j'ai pas envie de continuer », les femmes en face étaient déçues. Il y en a qui voulaient continuer la relation avec elles. Et elles n'étaient pas homosexuelles. C'était des femmes hétéros qui voulaient continuer la relation avec elles. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont attachées émotionnellement. Et voilà un autre élément qui nous prouve la différence entre la sexualité chez les hommes, qui est une pompe. Encore une fois, c'est une pompe. C'est du sang que t'envoies dans ta verge et roule ma poule, c'est parti. Alors que chez les femmes, c'est toute une construction qui se fait dans le cerveau. Donc une fois qu'elle s'est attachée à Nora Vincent, à cette journaliste, même lorsqu'elle a avoué que c'était une femme, elle lui dit « Je suis une femme comme toi, on va pas continuer à se voir. Oui, je suis homosexuel, mais j'ai une copine. » Eh bien, la femme hétéro en face était choquée et déçue. Elle lui dit « Oui, mais c'est pas grave, moi je veux continuer à te voir. » Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'attachement s'est fait dans sa tête. Elle s'est construit un film, elle avait accepté l'histoire dans sa tête, et le fait que ce soit un homme ou une femme, ça n'avait plus aucune importance. Elle découvre aussi, dans cette expérience, que la vie est d'une façon générale plus facile pour une femme. Elle fait une expérience pour aller acheter une voiture, et elle fait l'expérience en tant qu'homme et en tant que femme, pour voir comment ça se passait dans les deux cas. Et lorsqu'elle était allée en tant que femme, le vendeur, le dealer de voitures, le car dealer en anglais, avait tendance à être sympathique, à flirter, il lui a même fait un rabais sur la voiture, il lui a fait une remise. Alors que lorsqu'elle était allée acheter la même voiture en tant qu'homme, il n'y avait rien de tout ça. C'était sérieux, professionnel, lui parler des informations techniques, il n'y avait pas de flirt, il n'y avait rien, c'était la fiche technique de la bagnole, le prix et c'est tout. Alors qu'en tant que femme, elle avait obtenu beaucoup d'avantages.
Nora says she found differences not only in sexuality and intimacy, but in every walk of life.
I'm in the market for a car. And
take, for example, shopping for a new car. Going in as Nora, the sales pitch quickly becomes flirtatious.
Any guy that gets in is going to feel like, okay, this girl's...
I want to date this girl just for a car.
I didn't say it.
But going back to the same salesman as Ned... The tone was all business, and the talk was all about performance.
They have the 3-liter Duratec V6 engine.
And in the end, a personal touch for Nora, the salesman would never have offered Ned.
All right, thank you.
Et petit à petit, la conclusion, l'aboutissement de cette expérience, c'est que finalement, la vie en tant que femme n'est pas si difficile que ça. Le méchant patriarcat n'a pas vraiment transformé la vie des femmes en enfer, et c'est même plutôt le contraire. C'est plutôt elle qui mène la danse, à tous les niveaux, à tous les étages. Et pour finir son expérience, Nora Vincent a tenté des immersions dans des mondes qu'on va qualifier d'exotiques ou de marginaux, entre guillemets. Elle est allée passer 4 semaines dans un monastère pour fréquenter des moines et voir comment se passaient les interactions entre hommes dans un milieu exclusivement masculin.
Nora Vincent wanted Ned's last days to be among men only, in private and intimate surroundings. Nora, a lapsed Catholic, thought the cloistered inner world of a monastery would be ideal. Ned managed to live for 3 weeks as a trainee. The monks, she says, were pious, smart men, but they were still men.
Mais c'est une expérience qui n'a pas été très concluante parce que les moines ont assez vite identifié son côté féminin. Ils l'ont pensé homosexuel. Et à la fin de l'expérience, quand elle a dévoilé son identité, elle a dit en rigolant « Oui, je suis homosexuel, mais pas l'homosexuel que vous pensez. » Eux pensaient que c'était un homme homosexuel, alors qu'elle, bon, c'est le contraire. Et donc, ils ont rapidement identifié qu'il y avait un truc qui clochait, parce que, oui, sa transformation était plutôt réussie et facilitée par sa morphologie, mais elle pouvait pas berner tout le monde non plus. Il y a des indicateurs qui montraient qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc, ce qui s'est passé dans ce monastère, c'est que les moines l'ont isolée en la pensant homosexuelle et ils avaient peur qu'en fait, qu'elle apporte dans ce couvent des dérives ou des comportements sexuels qui peuvent dévier certains moines. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont isolée, ils lui ont plus parlé et c'est pas une expérience qui s'est révélée concluante. Ensuite, elle est allée fréquenter des milieux masculinistes virilistes, vous savez, les types d'hommes qui se réunissent dans des forêts pour s'entraîner, couper du bois, manier la hache, faire du lancer de couteau, etc. Et là aussi, l'expérience n'a pas été très concluante parce que dans ces milieux masculins très virils, tu peux pas faire illusion très longtemps. C'est-à-dire que tes limitations physiques vont tout de suite apparaître et elle n'a pas pu berner grand monde dans ces environnements. Ça a même mal tourné. Je pense qu'il y a un homme qui l'a démasqué et qui a voulu la considérer comme sa femme. Il voulait avoir des rapports sexuels avec elle, donc elle s'est vite barrée. Et pour sa dernière expérience et pour conclure ces 18 mois d'immersion, elle a rejoint un groupe de thérapie où les hommes parlent entre eux de leurs émotions, de leurs problèmes. Et ce qu'elle a réalisé, c'est qu'il y avait beaucoup de violence dans ces milieux, des discours extrêmement violents, extrêmement, entre guillemets, misogynes. Mais en passant du temps avec eux, elle a réalisé qu'il n'y avait aucune envie de passer à l'action ou de faire du mal. C'était des hommes qui en avaient ras-le-bol et qui parlaient violemment plus pour évacuer qu'autre chose.
Nora thought the perfect end to her 18-month saga was to join a men-only therapy group, a place where guys tried to bond and show their emotions instead of hiding them.
They don't get to show the weakness. They don't get to show the affection, especially with each other. And so often all of their emotions are shown in rage.
And they kept talking about their rage, often their rage toward women and what they would do physically and violently towards women.
Right. A lot of this was blowing off steam. It's sort of talking about the things that need to be said that you know you would never do. I mean, you know, they would talk about fantasizing about chopping up their wives or something. It's not that they would ever do that, but it was a way to get out the blackest thoughts.
Un homme, par exemple, typiquement, dans ses réunions, va dire « J'en ai ras le cul, je vais tout faire sauter, j'en ai marre de cette société féminisée, j'en ai marre des féministes, etc. » Donc, quand tu l'entends parler comme ça, tu dis « Il faut le surveiller, il va faire une bêtise. » Mais quand t'apprends à le connaître, c'est plus le pilier de bistrot énervé qui raconte des conneries que le gars qui va passer à l'action, qui va faire du mal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle a compris, c'est que beaucoup d'hommes sont sous pression, ils ont énormément de pression financière, familiale, et qu'ils ont besoin d'un exutoire, et cet exutoire n'existe pas toujours. Et ça, c'est l'une des conclusions à laquelle elle est arrivée, c'est que les hommes vivent une pression énorme sans aucun moyen de l'évacuer. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas admis qu'un homme puisse souffrir. La société occidentale, ou d'une façon générale, hein, c'est la même chose en Orient ou ailleurs dans le monde, ces sociétés sont basées sur le principe que l'homme est le fort, il gère, c'est le pourvoyeur, et la femme, c'est la fragile, qui a le droit de se plaindre, qui a le droit de pleurer, qui a le droit d'avoir des problèmes. Et pour les hommes, il n'y a aucun moyen d'exprimer des émotions, c'est mal vu. C'est pour ça que finalement, ces débats où les problèmes des hommes, d'une façon générale, on les retrouve surtout sur Internet, là où ils peuvent être anonymes et parler sans qu'on puisse les pointer du doigt ou les moquer. Et donc, on les retrouve dans les milieux red pill, masculinistes, MGTOW, et c'est dans ces forums-là qu'on les voit s'exprimer, y compris les milieux incel. Et tout ça, finalement, c'est une manière d'évacuer tout ce qu'ils ne peuvent pas dire dans la vie réelle. Et c'est ce qu'elle a découvert en parlant avec des hommes du quotidien, que ce soit dans son club de bowling, ou au travail, ou dans les milieux masculinistes, c'est que c'est des hommes sous pression. Ils ont tous une quantité phénoménale de problèmes, charges familiales, pensions alimentaires, stress au travail, pression sociale pour réussir, et ils n'ont aucun moyen de l'évacuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'endroit pour le faire. Et le seul endroit, finalement, c'est Internet. À une époque, en Angleterre, par exemple, il y avait les gentlemen's clubs. C'est des endroits où on va pour discuter, rencontrer d'autres hommes, faire des affaires, parler du monde. C'était Internet avant l'heure, quoi. Tu veux savoir quelles sont les nouvelles, les vraies nouvelles, pas les nouvelles pour la populace, mais les vraies nouvelles, tu vas dans un gentleman's club. Il y avait un abonnement, tu payes, et c'est là où tu apprends des choses et tu parles avec les vrais hommes. Il n'y a plus ces espaces aujourd'hui, à part Internet.
Nora says she's healed now and glad to be rid of Ned, but her views about men have changed forever.
Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. They need to be together.
Do you think women understand what it's like to be a man?
Not at all. No clue.
Et elle découvre que les hommes sont vulnérables, elle découvre que la question du suicide est une question très présente. 75% des suicidés sont des hommes, les femmes se suicident beaucoup moins. Pour les mêmes raisons qu'on a expliquées, les femmes parlent, les femmes communiquent. Une femme qui a des idées noires va parler. Elle va appeler une copine, elle va appeler sa mère, elle va passer 3 heures au téléphone et quand elle a raccroché, c'est fini. Elle a évacué la moitié de ses problèmes, elle a évacué la pression. Les hommes n'ont pas d'espace pour parler. Donc, un homme qui souffre en général, il souffre tout seul dans son coin et l'aboutissement, malheureusement, parfois, c'est le suicide. Et c'est l'un des sujets les plus tabous dans la société occidentale et dans toutes les sociétés d'une façon générale, la question du suicide des hommes, parce que ça se passe dans le silence. C'est un sujet qu'on n'a pas envie d'aborder. Pourquoi? Parce que, d'une façon générale, le discours de l'homme en détresse n'est pas toléré. Le discours de l'homme en détresse est un discours qui ne veut pas être entendu. Le discours validé, admis, véhiculé, c'est celui de la femme en détresse. Sauf que ce discours ne rejoint pas la réalité parce que comment expliquer que ce sont les femmes qui sont en détresse quand 75%, donc 3 personnes sur 4 qui se suicident, est un homme? Le discours qui consiste à dire les femmes souffrent et les hommes ont la belle vie est faux. La majorité des individus qui en finissent sont des hommes.
Took a trip into manhood to help her appreciate her own femininity.
I'm so much closer to myself than I ever was, that I really like me. I really like being me, and I really like being a woman.
Did you like being a woman before, Ned?
I did, but I like it more now, because I think it's more of a privilege.
Et voilà les conclusions auxquelles nous mène cette expérience. Nora Vincent a été profondément touchée par cette expérience, à tel point qu'elle a connu des désordres psychologiques. Et qu'elle a été internée, elle s'est internée elle-même pour traiter ses problèmes psychiatriques, et elle a même écrit un livre pendant cette période qui s'intitule La folie volontaire, sur la base de son expérience en hôpital psychiatrique. Par la suite, elle a commencé à publier des fictions, elle a écrit quelques romans, elle était très proche, ou elle se disait très proche de l'écrivain anglais Virginia Woolf, qui, pour la petite histoire, s'est suicidée. Virginia Woolf a mis fin à ses jours en remplissant ses poches de pierre et en marchant dans une rivière pour se noyer. Et Nora Vincent finit par faire la même chose. Elle se suicide, elle met fin à ses jours après une longue période de dépression, d'internement, de médication, et elle se rend dans une clinique en Suisse pour mettre fin à ses jours. La Suisse pratique l'euthanasie ou le suicide assisté, donc elle décide volontairement, Nora Vincent décide volontairement de mettre fin à ses jours le 6 juillet 2020. Elle n'a pas donné d'explication concrète à son acte. Les gens qui la connaissent disent que c'est simplement l'aboutissement d'une longue période de souffrance mentale, de souffrance psychologique, peut-être aussi certaines expériences dont elle ne s'est jamais remise. Je ne sais pas si c'est lié directement à ces 18 mois d'immersion dans la vie d'un homme? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le cumul de problèmes psychiatriques qu'elle traîne avec elle d'une façon générale. Et pour conclure, je dirais que ce qu'on peut noter, ou la question qu'on peut poser, c'est pourquoi il y a toujours eu une association aussi étroite et tumultueuse entre la créativité et la maladie mentale. Et ce conflit se termine souvent par la mort. On peut constater que le génie, l'excès d'intelligence, mène souvent à cette fin tragique. Et pendant très longtemps, j'ai pas réussi à comprendre le rapport qu'il pouvait y avoir entre le génie et le suicide, entre le génie et la souffrance, entre l'intelligence exceptionnelle et la souffrance psychologique. Et la personne qui m'a donné la réponse à cette question, c'est Albert Camus dans L'homme révolté. Et Camus dit, c'est pas ces mots exacts que je vais reprendre, mais je vais essayer de mémoire de me rappeler comment il l'avait formulé. Il dit que le suicide apporte une fin à l'interrogation des hommes face au silence du monde. Parce que finalement, la souffrance de l'homme, elle vient de là, de tout temps. C'est que on pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Pourquoi on est là? Et en face, c'est le silence total. Le monde ne répond pas. On est plein d'interrogations. Et en face, c'est le vide intersidéral. C'est le cosmos, les étoiles, les planètes. Mais ça ne parle pas, ça ne dit rien. Certains arrivent à se contenter de la religion. Mais à partir d'un certain quotient intellectuel, à partir d'une certaine intelligence, tu ne peux pas croire à ces débilités. C'est pour ça que quelque part, l'intelligence est une malédiction. Quand tu as un quotient intellectuel de 85 ou 87, un peu en dessous de 90... On peut te raconter n'importe quelle merde, tu manges. On te raconte qu'un prophète est monté sur un âne et qu'il a fait un voyage spatial, tu manges. Il y a plein de gens qui croient à ça. Quand tu as un certain niveau d'intelligence, tu dis, tu peux répéter l'histoire? Un prophète sur un âne qui est monté dans l'espace? Au passage, c'est l'histoire que raconte l'islam au sujet du prophète Mahomet, qui a fait un voyage jusqu'à Jérusalem et qui est revenu dans la même nuit à dos d'âne, un âne avec des ailes qui s'appelle Burak. T'as compris que la barre d'entrée pour croire à ces conneries est pas très élevée. C'est pour ça que la religion n'apporte pas de réponse aux gens instruits. Et donc tu te retrouves avec tes interrogations face au vide, au vide. L'univers ne parle pas, il est silencieux. Il te donne des informations, des indices, grâce à la science, grâce au savoir, mais il ne te répond pas clairement. Donc t'es là, comme le singe que tu es, on est des singes, on est juste des grands singes, des primates, on est là à crier. Finalement, avec tout notre savoir, on n'en sait pas plus qu'un chimpanzé. Le bonobo qui se gratte le cul, qui se renifle le doigt, on n'en sait pas plus que lui, au final, sur l'origine de l'univers. Sauf que lui a lâché l'affaire. La seule différence entre nous et les autres grands singes, c'est que nous, on cherche encore, et les singes ont lâché l'affaire. Ils n'ont jamais cherché, d'ailleurs, ils n'ont jamais commencé. C'est à se demander s'ils n'ont pas raison, parce qu'on va arriver à la même conclusion. On ne saura jamais, et ils ne sauront jamais. Sauf que eux, au moins, ne se seront pas torturés. Et voilà la réponse que nous apporte Albert Camus, c'est la souffrance des hommes intelligents ou des gens intelligents vient de là, c'est qu'ils passent leur temps à poser des questions et l'univers est silencieux, l'univers les ignore, il ne veut pas leur parler. Et souvent, la mort, c'est la fin, la mort met fin à cette interrogation et à cette souffrance. Et les gens qui sont vulnérables, malheureusement, ne tiennent pas. Voilà. Les gens normaux arrive à vivre avec cette interrogation, elle est fatigante, elle est usante. Ne pas savoir d'où on vient, ne pas comprendre l'univers, ça peut fatiguer. Mais quand t'as pas de problème psychologique, psychiatrique, quand la chimie de ton cerveau n'est pas trop déréglée, tu vis avec, c'est pas la fin du monde. Et tu te dis, ben peut-être qu'on va savoir en fait, c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'on va un jour découvrir, c'est pas une fatalité. Mais beaucoup de gens sont écrasés par le poids de ce vide immense, et arrivent à la conclusion qu'ils veulent en finir, comme ça a été le cas pour Nora Vincent. Donc, c'est pas un suicide qui est dû à une raison particulière. Elle n'a pas laissé de lettres, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas accusé, elle n'a pas dit « voilà, vous êtes tous des cons, je vous emmerde ». Non, il n'y a rien eu de ça. Je pense que c'est simplement l'aboutissement d'une longue réflexion. D'ailleurs, elle n'a pas fait ça violemment, elle a fait ça en Suisse, dans une clinique. Elle a mis volontairement fin à sa vie. Donc, c'est une décision mûre. C'est pas un geste impulsif de la personne qui saute par la fenêtre. C'est une décision réfléchie qu'elle a mis beaucoup de temps à aboutir après avoir écrit plusieurs livres, plusieurs romans, après avoir médité la question, etc. Et je me dis d'ailleurs que ça serait intéressant de faire un sujet sur le suicide, peut-être sur Patreon, la plateforme s'y prête un peu plus. Je pense qu'un sujet sur le suicide sur YouTube, bon, je sais pas combien de temps ça va survivre, mais sur Patreon c'est un peu plus intimiste. Je pourrais aussi prendre des extraits d'un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle The Bridge, le pont. Une expérience incroyable, c'est des gens qui se sont mis avec une caméra face au pont de San Francisco et ils ont regardé les gens sauter pendant, je ne sais pas combien de temps a duré l'expérience, mais peut-être plus d'une année. Et ensuite, ils sont allés interviewer les gens qui ont survécu. Il y a des individus qui ont sauté du pont de San Francisco et qui ont survécu à la mort et qui, bien sûr, n'ont pas envie de retenter l'expérience. Ils ont compris que c'était un moment difficile à passer. Et c'est un sujet qui est intéressant en parlant du suicide, pas par voyeurisme, mais pour essayer de concrètement comprendre les mécanismes qui mènent à ça, pourquoi les gens le font, à quel moment se fait la bascule. Et c'est un sujet tellement tabou qu'il y a pas beaucoup de littérature et de documentation à ce sujet, et les rares choses qu'on peut trouver sont assez dépressives. Elles ne vont pas dans le sens de comprendre le mécanisme psychologique, comprendre le pourquoi du comment, comprendre des choses qui peuvent peut-être éviter à certains de le faire, parce que comprendre quelque chose ou comprendre la question, c'est déjà une partie de la réponse. Et pour moi, j'ai toujours pensé que le savoir était là pour permettre de mieux vivre. C'est pour ça que je ne crois pas au tabou. Le tabou, c'est le domaine de l'obscurantisme. C'est les obscurantistes qui aiment le tabou. Faut pas toucher, faut pas toucher à Dieu, faut pas toucher à la sexualité, faut pas toucher. Et en fait, en mettant des sujets sous le tapis, finalement, on ne fait qu'étendre le champ de l'obscurantisme. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de tabou, rien ne doit être tabou, et que le savoir est là pour nous permettre, d'une façon générale, de mieux vivre. Et plus on en sait sur nous-mêmes et sur les mécanismes et sur la façon dont on fonctionne, plus ça nous permettra d'éviter le pire. Donc certainement un sujet à suivre sur le documentaire The Bridge, au sujet du pont de San Francisco et des gens qui se baladent sur ce pont. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.